25 mai 1973, le jour où l'enfant prodige du rock a sonné les cloches de son premier opus, Michael Field, Tubular Bells. Certains coups d'essai deviennent, contre toute attente, des coups de maître. L'histoire du rock en est parsemée d'exemples, mais aucun n'est aussi parlant que celui du premier opus d'un enfant prodige nommé Michael Field, qui deviendra un véritable chef-d'œuvre de l'opéra rock. Et pourtant, ce premier album ne comporte aucun ingrédient susceptible de séduire les aficionados du rock'n'roll, si ce n'est l'incroyable dextérité de son géniteur. La carrière de Michael Field, alors âgé de 15 ans, débute comme guitariste au sein de Sally & G, un duo folk formé avec sa grande sœur Sally. Pour l'heure, Michael Field est un adolescent introverti et hypersensible qui se réfugie corps et âme dans la musique. 2 ans plus tard, il intègre en tant que bassiste de Wall World, groupe de l'ex-leader de Soft Machine, Kevin Ayers, pour lequel il participe à l'album Shooting at the Moon. C'est durant ces sessions d'enregistrement qu'il se familiarise avec une multitude d'instruments présents dans les studios d'Abbey Road et acquiert de véritables compétences de multi-instrumentiste. À la même époque, Oldfield a déjà couché sur bande les premières démos de son futur chef-d'œuvre grâce à un magnétophone que lui a cédé Kevin Ayers et dont il a bidouillé la tête enregistreuse pour en faire un multipiste. Opus One, futur Tubular Bells partie 1, est d'abord refusé par EMI et CBS avant d'attirer l'attention toute particulière d'un entrepreneur intrépide du nom de Richard Branson, désireux de lancer son propre label. À partir de là, c'est une véritable success story qui commence. Enregistré au Manoir, les studios personnels de Branson, Tubular Bells devient le premier opus de Virgin Records. Un pari risqué pour un opéra rock sans la moindre parole et pratiquement sans batterie. Un pari réussi grâce à la grande virtuosité et à la sensibilité mélodique dont fait preuve Oldfield du haut de ses 19 ans. Le choix du thème d'ouverture obsédant pour la musique du film The Exorcist renforce encore davantage le succès du disque. Un succès qui n'intéresse pourtant que très moyennement le jeune prodige dont la timidité maladive l'incite à refuser toute promotion. Finalement, l'esprit de persuasion de Branson aura raison d'Oldfield, qui accepte une double prestation scénique accompagnée d'une pléthore de musiciens issus d'Enrico, Gong et Soft Machine. Toujours est-il qu'après le coup d'envoi tonitruant de sa carrière solo, l'esprit des cloches tubulaires resteront omniprésentes dans l'œuvre de Mike Oldfield.